France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on revient 30 ans en arrière, 30 ans exactement depuis la sortie d'un disque hors norme, un double album devenu un monument, un album qui a changé à jamais la trajectoire du rap et scellé la légende de son auteur, All Eyes On Me, de Tupac Shakur. Un disque démesuré, excessif, flamboyant, parfois contradictoire à l'image de Tupac lui-même, rappeur, poète, star mondial, figure politique, icône tragique. À travers cet album, Tupac ne cherche pas seulement à dominer le rap, il règle ses comptes, il célèbre la vie, il exhibe ses failles, il transforme sa colère en spectacle et sa survie en manifeste. 30 ans plus tard, l'album continue de poser une question simple mais vertigineuse: comment un artiste peut-il devenir plus grand que sa propre musique? Alors ce soir on va parler de l'album, mais surtout de l'homme derrière le mythe, et j'ai une tablée extraordinaire avec moi. Nous avons Driver, qui était là il y a pas longtemps d'ailleurs pour l'émission autour de Bad Bunny.
Ouais.
Driver, rappeur, podcaster, entertainer, notamment avec featuring et ta chaîne,
voilà,
YouTube aussi.
Exactement.
Voilà. Merci. On a également le Bougarno de Parole Véritable Podcast.
Yes.
La première fois dans l'émission, merci d'être là.
Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation.
Très heureux de t'avoir. Et Aurélien Chapuis, qui était venu aussi pour une émission autour du Wu-Tang en début de saison, et qui lui notamment travaille sur le podcast Music Sound Better With Us.
Exact.
Et qui a un magnifique pull en hommage aux Cool Sessions de Jimmy J. Et d'ailleurs, c'est vous qui l'aviez édité ce pull.
Tout à fait, ouais.
Voilà, je m'égare.
Merci.
Pardon,
ça fait plaisir.
L'émission spéciale Tupac, All Eyes On Me, c'est maintenant à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Ça, c'est un extrait du tube Planétaire California Love, donc en collaboration avec Dr. Dre, produit aussi par, morceau produit par Dr. Dre. La première question, elle est simple. All Eyes On Me, donc, qui fête ses 30 ans cette semaine, qui fêtera ses 30 ans demain exactement. Quel est votre premier souvenir avec cet album, Driver? Est-ce que tu l'écoutes à la sortie?
Ouais.
Est-ce que tu l'attends à ce moment-là? Comment tu le vis en 1996?
Alors, j'ai un pote qui l'a eu avant nous. Donc je vais chez lui pour l'écouter.
Okay.
C'était l'époque où on faisait des copies cassettes.
Ouais.
Donc je fais ma copie, mais je le découvre en même temps. Et je suis comme un fou. En fait, on l'attendait parce qu'il y a un gros contexte. Tu vois, il y a plein de choses. Il sort de prison.
Exactement.
Il signe sur un label sulfureux et à succès, qui est Defro. On sent qu'il est revanchard.
C'est aussi là où il rejoint un peu la Californie, parce qu'il y a aussi ça. À la base, c'est pas un rappeur qui.
Si, avant, mais plus la baie.
Ouais, exactement.
Côté de la baie. Mais là, il rejoint vraiment Death Row et Los Angeles.
Death Row et Los Angeles,
voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment un contexte où les revanchards, moi, je me souviens justement de ce clip California Love et un Behind the Scene sur MTV. Donc. Où il montrait les coulisses du clip, on le voit.
Le fameux clip où Kendrick était sur le tournage. Hein,
pour pas cette version-là.
Ah, tu parles de la deuxième version, dans la maison.
La version Mad Max, moi.
Oui.
Voilà. Et on le voit en train de compter de l'argent et on le voit en train de citer les noms des gens contre qui il est en guerre, notamment les gens du label Bad Boy. Donc on sent qu'il est revanchard. Donc moi, quand je vais écouter cet album-là, je sais que je vais avoir un Tupac énervé.
Ouais, ok.
Voilà.
Toi, Nemo aussi, je sais que tu étais déjà un grand auditeur de rap à ce moment-là.
Ouais.
Donc comment tu vis la sortie de ce monument?
Moi j'étais très clip à l'époque, donc j'enregistrais beaucoup des émissions sur la télé de clips, et donc les premières choses que je vois de Tupac, c'est les clips. Moi, faut savoir que j'étais très Wu-Tang, Mobb Deep, etc.
Oui,
donc...
toi t'avais peut-être une culture plus new-yorkaise.
Ouais. J'aimais bien Dr. Dre, Snoop et tout ça, mais c'est vrai que Tupac, de base, c'était pas ce que j'écoutais. Par contre, vraiment, là c'est le moment où ils ont mis le curseur blockbuster au niveau supérieur.
Ouais.
Et donc moi, ce qui me paraissait incroyable, c'était le côté justement cinéma, le côté Mad Max à l'époque,
faire l'image aussi de l'artiste.
Ouais, et puis tout ce qui était en train de devenir Tupac, c'est-à-dire une sorte de héros presque Will Smith, tu vois. Vraiment un héros qui allait transcender le rap presque. Et moi, c'était pas forcément le style musical que je préférais à cette période-là.
Ouais.
J'ai vraiment réécouté depuis, mais par contre, l'image, c'était incroyable, tu vois.
Ouais. Et toi, Arnaud, peut-être que tu es un peu plus jeune que Aurélien et Driver, est-ce que tu l'écoutes à la sortie ou est-ce que tu le découvres un peu après? Moi, je sais que par exemple, je l'ai vraiment écouté l'album des années après. Je connaissais Tupac, bien sûr, je connaissais les morceaux, mais moi, mon rapport à cet album-là, il arrive finalement plutôt dans les années 2000. Toi, est-ce que c'est pareil ou est-ce que tu le découvres déjà à la sortie?
Pareil, moi je l'écoute plus tard, mais j'ai connaissance du fait que Tupac a sorti un album parce que mon oncle, lui, l'écoutait.
Ok.
Moi, je l'écoutais pas, mais moi, je me rappelle du livret. Et ma mère m'avait acheté une paire de Fila Grant Hill. J'en voulais pas.
Grant Hill qui était un joueur de basket.
Ouais, hein, un joueur de basket qui jouait... Je sais plus dans quelle équipe à cette époque-là.
Okay. Seattle, non ?
On me dit aux Pistons.
Pistons Détroit, ouais. Numéro 33. Bref, on m'achète cette paire-là et moi, j'en veux pas. L'oncle vient avec le CD, il dit « Mais toi, t'es fou. Regarde, tu vois pas même Tupac. » Ah bon, j'ai validé, j'ai pris ça. Non, moi, c'est ça. Le premier souvenir que j'ai avec le CD, c'est ça.
Okay.
Mais des années plus tard, je l'écoute plus à des fins d'étudier la chose et d'en savoir plus sur ce qu'est la légende, tout simplement.
Alors, à l'époque, maintenant, c'est un peu devenu désuet. Les formats, les doubles albums, puisqu'on aujourd'hui il y a le streaming, donc en fait on peut mettre 50 morceaux sur un album, c'est un album. À l'époque c'est un double album, et ça veut dire quelque chose. Même,
c'est un des premiers,
c'est
en
un
plus,
des premiers, exactement.
En solo, c'est-à-dire qu'il y a eu des groupes, il y a eu notamment Jazzy Jeff et Fresh Prince.
Il y a eu Ombre et Lumière en France, Ayam qui sort un double album avant, mais lui sort
c'est
un double album.
C'est le premier rappeur solo
exactement.
À sortir un double album juste avant.
Juste avant Biggie, évidemment, et puis Jay-Z, Nas sont passés par là, Outkast, UGK, bref, c'est devenu les Deep Set avec Diplomatic, Immunity.
Bon Thugs.
C'est devenu, mais lui c'est vraiment le premier. Qu'est-ce que ça signifie à l'époque de sortir un double album, cette œuvre un peu titanesque, dantesque, ça représente quelque chose aussi, ce format, le format double album?
Ben moi, je reviens à ce fameux jour où je viens pour écouter l'album chez mon pote, et je viens avec une cassette de 60 minutes pour l'enregistrer.
Il t'en fallait 4 en fait.
Il me fallait une 90 minutes et peut-être plus, je sais pas. Donc il n'y avait pas assez. Donc moi, quand je copie, je suis obligé de choisir les morceaux à ce moment-là.
Ouais.
Donc c'est la première fois qu'il y a tellement de morceaux que ça ne rentre pas dans la cassette vierge.
Ouais.
Mais nous, on est contents parce que tous les morceaux sont de qualité.
Il n'y a rien à acheter. Faut
c'est
album,
archi bien produit.
C'est rare.
Ça qui revient.
Parce que souvent, quand d'autres grands artistes, je pense à Jay-Z par exemple, a sorti The Blueprint 2, on se dit, il y a des super morceaux, mais ce serait mieux avec un simple album. On se dit pas ça sur
Parce que c'est très très dur de réussir un double CD, un double album.
Il y a beaucoup de facettes archi différentes. Après, on a appris plus tard que c'était aussi parce que Tupac était complètement ruiné et qu'il il devait 3 albums à Death Row. Et il voulait un peu les sortir vite. Et en fait, un double album, c'était déjà 2 albums en moins pour Death Row.
Ouais.
Donc il avait quand même ce truc au-dessus de la tête où il voulait aussi taper très fort et en même temps il voulait se libérer de rembourser en fait la caution.
Après c'est,
filé, tu vois.
C'est surtout que c'était un bosseur,
ça c'est sûr,
et qui allait très vite.
Oui, et c'est d'ailleurs
il avait encore énormément de trucs.
Et on l'a vu aussi après son tragique décès puisqu'il y a énormément d'albums posthumes qui sont sortis et donc il enregistrait énormément. Arnaud, toi du coup qui l'a étudié, pourquoi ce disque est autant révéré aujourd'hui, autant célébré?
Bah déjà, premier double CD de l'histoire du rap. Kenry, parce qu'en France, il y avait Ombre et Lumière avec Ayam. Et He's a DJ, I'm a Rapper de Fresh Prince et Jazzy Jeff. C'était un double album, mais en vinyle. C'était la première fois en fait, qu'on avait un album rap sur 4 vinyles.
Ouais.
Que la plupart du temps, c'était 2 vinyles, face A, face B, face C, face D.
Donc Fresh Prince et Will Smith, évidemment.
Voilà.
Pour de ceux qui
Donc pour ça, des années après... c'est je crois aussi l'un des premiers albums rap qui a été certifié diamant.
Pour ça aussi. Il est resté très longtemps dans les charts.
Exactement. Ouais. Et je vais le dire à personne. Enfin, je vais rien apprendre à personne ici. Il est chez Def Row. C'est peut-être le label qui a le run le plus intense de l'histoire du rap.
C'est vrai que ça c'est important. Driver l'a mentionné, mais c'est vrai que le run de Death Row à ce moment-là, donc le label californien, il est extraordinaire.
Ans,
effectivement, il est très dominant.
Et on va dire que c'est le dernier épisode en fait de l'épopée crapuleuse de Death Row. Parce qu'après
c'est fini.
Il
faut
savoir qu'au moment où il signe chez Death Row, on a quand même dans le roster Dr. Dre, Snoop Dogg et Tupac. Donc ces trois-là, c'est incroyable, c'est la folie.
Exactement.
C'est trois très grosses stars. Et Tupac, quand il arrive, la star, c'est Snoop. Pour ceux qui ont vu les images du concert au House of Blues, Tupac fait la première partie, de Snoop Dogg. Aujourd'hui, tout est inversé dans la tête des gens. Tout le monde se dit c'est Tupac la star, mais quand il arrive, c'est pas la star. Donc il arrive dans une écurie très très forte.
Bon, puisqu'on parle de cet album-là, je propose qu'on écoute un morceau. On va écouter le morceau éponyme, All Eyes on Me, en featuring avec Big Sike. Il avait toujours des featuring avec des rappeurs.
C'est les Thug Life,
Mais il y avait toujours cette fidélité-là.
Qui puisse reposer en paix aussi.
Exactement. On s'écoute ça, Tupac, All Eyes on Me, donc extrait d'un album qui a 30 ans.
Big Sike, New, Hank, Poco, Big Sike. Y'all know how this shit go, you know.
All eyes on me.
Motherfucker,
roll up in the club and shit.
All eyes on me. All eyes on me. You know what? I bet you got it twisted, you
don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally freed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's in my eyes. Cause all I want is cash and things. A 500 Benz wanting flashy brains. Bitches pursue me like a dream. Been known to disappear before your eyes. It's like a dope fiend. It seems my main thing was to be major paid. The game sharper than the motherfucking razor blade. Save money, bring bitches. Bitches bring lies. One nigga's getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and 15. They might hold me for a second, but these punks won't get me. We got four niggas and low riders and ski masks screaming thug life. Every time they pass, all eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. All eyes on me. All eyes on me. Live the life of a thug nigga until the day I die. Live the life of a boss player. Cause even getting high.
Hey, to my nigga Pac. So much trouble in the world, nigga. Ain't nobody feel your pain. The world's changing every day, time's moving fast. My girl said I need a race, how long will she last? I'm caught between my woman and my pistol and my chips. Triple beam, got some smokers on, whistle as a dip. I'm lost in the land with no plan, living life flawless. Crime boss, contraband, let me toss this. Mediocre's got a lot of nerve, let my bucket swerve. I'm taking off from the curb. The nervousness, neglect made me pack a tech. Devoted to serving this, my wet and paychecks. Like a kite satellite, nigga, I'm forever ballin'. It ain't right, parasites, triggers, and fleas crawling. Sucker duckin', get busted, no emotion. My devotion is out of my business, nigga, and keep on coasting. Where you going? I've been there, came back, it's lonely, homie. Steady flowing against the grain, nigga, still don't know me. It's about the money and this rap shit, this crap shit. It ain't funny, niggas don't even know how to act shit. What can I do? What can I say? Is there another way? Blunts and gin all day, 24 parlay. My little homie G, can't you see I'm Busta Free? Niggas can't stand me,
all eyes on me.
Live the life as a thug nigga until the day I die. Live the life as a boss player.
All eyes on me.
All eyes on me.
Live the life as a thug nigga until the day I die. Live the life as a boss player.
All eyes on me.
All eyes on me.
Pay attention, my niggas. See how that shit go? Nigga walk up in this motherfucker and be like, ping.
Collars, thug nigga, till the day I die. Them like us, bitches, cause even getting hot.
Every motherfucking body. I got busters, hoes, and police watching a nigga, you know?
Living life as a thug nigga till the day I die. Living life as a boss player.
All eyes on me.
It's like what they think, I'm walking around with some keys in my pocket or something.
All eyes on me.
They think I'm going back to jail. They really on that dope.
Living life as a thug nigga till the day I die.
I know y'all watching. I know y'all got me in the scopes.
Till the day I die.
I know y'all know this is thug life, baby.
All Eyes On Me, donc de Tupac, morceau éponyme, donc, qui porte le titre aussi de l'album qui fête ses 30 ans, qui fêtera ses 30 ans demain exactement.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know it, love is sweet.
Dear mama,
place no one above you.
You all appreciate it.
Alors ça c'est un extrait de Dear Mama qui n'est pas sur Eyes On Me mais qui est présent sur Me Against The World, l'album précédent qui est un énorme carton aussi, cet album qui en tête des charts quand il est en prison. Je voulais qu'on écoute ce morceau déjà parce que je l'adore mais aussi parce que c'était important, tu l'as mentionné rapidement, de parler du contexte Driver dans lequel Tupac signe, parce qu'effectivement il signe chez Death Row, Arnaud l'a dit, label très important, dominant à l'époque. Qu'est-ce que ça représente pour lui de rejoindre ce label-là? Parce que c'est aussi une histoire particulière et un symbole fort qu'il envoie.
Bah, déjà, il faut savoir que c'est pas la première fois que Death Row approche Tupac. Et ils ont essayé de le signer à plusieurs reprises, notamment à l'époque de Above the Rim, un film dans lequel il joue et il donne, un morceau incroyable qui s'appelle Pain.
Et d'ailleurs, dans lequel c'est un acteur qui joue, c'est un très bon acteur. Vraiment, il a pas fait des grands films, mais il était toujours très bon, je trouve. C'est un autre sujet, mais ouais.
Et Defro l'approche une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, il refuse. Parce qu'il sait qu'il y a quand même une image assez compliquée derrière, et il y a des rumeurs aussi très compliquées. Sauf que là, il se retrouve en prison. Et que, en gros, Suge Knight vient le voir, donc Suge Knight, le patron de ce label Defro, vient le voir en lui disant, en gros, voilà, je peux te sortir d'ici, mais tu signes chez moi si je te sors d'ici. Et en plus, on fait la guerre à Bad Boy, moi.
Donc Bad Boy, label de Puff Daddy, voilà. Biggie. Ouais.
Donc Suge Knight dit, moi, j'aime pas Diddy, toi, apparemment, t'aimes pas Biggie. Tupac lui dit, hey, j'aime pas Diddy. Ça en fait deux, dit, donc on fait la guerre, il dit, je te suis. Donc, et, oui, ça change beaucoup de choses.
Et alors, pourquoi Suge Knight n'aime pas Diddy? Parce qu'on se souvient notamment des Source Awards en 95, donc un événement extraordinaire dans l'histoire du rap américain, les Source Awards, où donc c'était, les Source étaient un magazine très important dans les années 90, et donc avaient leur cérémonie, les Source Awards. Mm-hmm. Et donc l'édition de 95, elle est complètement folle, elle est incandescente. Ouais. Et donc il y a notamment Suge Knight qui vient sur scène et qui fait un discours. En gros, il explique que si vous voulez un producteur qui n'apparaît pas dans les clips,
qui danse pas comme un
poisson, des vidéos.
Voilà. Enfin, tu fais très bien, Suge Knight. Voilà, on est dans un contexte où déjà il y a une animosité.
Voilà. Et il se trouve que c'est, il y a un label qui vient de New York, Bad Boy, un label qui vient de Los Angeles, Defro, c'est l'opposé. Donc ça crée, c'est des médias, des magazines qui créent vraiment ça, un truc là, East Coast contre la West Coast.
Ça a été monté en épingle aussi.
Exactement.
Toi qui étais plutôt un auditeur de rap new-yorkais, Aurélien, à l'époque, est-ce que tu avais choisi ton camp? T'étais Team New York ou tu te posais pas la question?
Pas vraiment. En fait, on se rend pas compte, mais c'est passé assez vite. Là, en 95, nous, vision française, on avait un peu un délire, c'est du catch, quoi. Tu vois, on pensait qu'ils étaient en train de s'embrouiller, que c'était un bif.
On avait moins accès aussi à toutes les images comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Non, puis en France, quand t'avais des bifs, c'était pas aussi violent, tu vois. Ouais. C'est après, quand un an après, les deux protagonistes principaux se font flinguer, qu'on se dit, attends, c'est pas du tout notre réalité, c'est autre chose, tu vois. Donc non, j'avais même pas eu le temps de choisir un camp. Je trouvais ça juste un peu étrange d'avoir des morceaux où vraiment ils disaient des trucs horribles les uns sur les autres. Et je trouvais ça pas... Enfin moi, j'étais un peu dans le délire, tu vois, faut qu'on soit un peu ralliés. Je voyais pas, en fait, de mon point de vue de francophone.
T'étais ultra pour le coiffe, toi, t'étais cultivé. Non, je voulais que tout le monde...
Déjà au début, puis après...
Natif tombe.
Moi, j'étais très Redman, Wu-Tang et tout, et en vrai, c'était les seuls qui bossaient avec les deux.
C'est vrai. Redman et d'ailleurs, sur cet album, on retrouve Redman et Method Man.
On entend même une spectacle avec
INF The Rebels, qui devait être sur le morceau, donc membre du Wu-Tang.
Puis après, il a, finalement, il y avait trop de... Il a mis Big Sig à la place, ou je sais pas qui.
Non, il a mis personne.
Non, il y a personne, finalement.
Il retire Inspector Deck et Lady of Rage.
Ça fait trop de... Il y a trop de gens. Mais oui, pour le coup, moi, je pense qu'ils sont tous ensemble. Et de mon point de vue d'auditeur de Redman et du Wu-Tang et de Mobb Deep, enfin Mobb Deep, ils étaient vraiment énervés. Et j'avais l'impression que... C'était pas aussi clair que ça allait l'être juste après, quand les morts tombent, en fait.
Alors, c'est pas sur l'album, mais il y a un morceau, on en parlait un petit peu en antenne, Hit Em Up, qui est un véritable clash, pour le coup, un diss track, comme on appelle ça, de Tupac à l'encontre de tout New York, globalement. On en parlait en antenne, et on avait l'air d'être tous plus ou moins d'accord sur le fait que c'est le plus grand clash, en tout cas le plus grand diss track de l'histoire du rap américain. Arnaud, t'étais catégorique là-dessus. Pourquoi? Pour toi, c'est le plus grand, parce que c'est important. On parle de la guerre East Coast-West Coast, qui effectivement a peut-être pas duré si longtemps que ça, mais qui est très marquante, ne serait-ce qu'en termes, c'est très iconique, les gens ont beaucoup fantasmé dessus. Ça, c'est un peu le morceau, le point culminant de cette guerre. Pourquoi c'est le meilleur selon toi? Et pourquoi Tupac? Parce que c'est aussi un rappeur, effectivement, je parlais de contradictions dans le début, peut-être plus de paradoxes, comme lui qui les assumait, qui pouvait faire des morceaux extrêmement doux, mais des choses aussi extrêmement hargneuses. On pouvait parfois le taxer de misogynie, il a aussi des morceaux extrêmement féminins. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, c'est le rappeur le plus paradoxal peut-être de l'histoire du rap américain.
Il a tout, et il
a rappé la haine comme personne. Pourquoi c'est le meilleur diss track pour toi, Hit Em Up?
La violence du morceau, le clip, le contexte, et est-ce que c'est sa vraie face? Parce que même par rapport à ce morceau-là, on en parlait tout à l'heure, il n'est pas dans l'album, mais il est sur la face B d'un des singles,
How Do You Want It.
D'ailleurs, même ce morceau, il y a un clip normal et un clip interdit.
Tout à fait.
Bon, on en parle
interdit
jour.
Pour d'autres raisons.
Voilà. Mais en vrai, moi, selon moi, ça a montré le vrai côté haïsseur du mec, que quand il est dans une guerre, il va jusqu'au bout. Ça, c'est même un des détails, en fait, qui a peut-être conditionné aussi la suite. Après son décès, quand il sort Don Killuminati de Seven Day Theories,
déjà un album posthume, parce qu'il sort un peu après.
Quand on regarde dans les crédits, il y a un moment où il y a marqué Wartime. En vrai, Habituellement, quand on achète un album de rap, on voit toujours le côté où il y a les dédicaces. Pardon,
j'adore parce que Arnaud, à chaque fois, il parle de livret.
Non, mais parce que moi, je suis dans ça.
Quand on voit sur de parole véritable, il y a plein de magazines d'époque. J'adore.
Dans les crédits, il y a toujours un moment où il dédicace les gens, thank you, tout ça. Que là, il y a un moment, not thank you. Il dédicace les gens qui ne veulent pas remercier. Et dans les gens là, il y a Biggie, Puff, Jay-Z, Mobb Deep, Nas.
Tout le monde.
Il y a même Wendy Williams, animatrice radio, qui avait fait des rumeurs sur lui, tout ça.
Fait.
Donc même jusque là, même dans les crédits, il faut mettre les noms de gens. C'est comme si je viens ici, je vous dis bonjour, je fais mon émission, et je me barre, je dis je vous dis au revoir. C'est la même chose qu'il a fait. Et en vrai, ça c'est atypique. Et je pense que c'est aussi une des particularités de ce diss-track là. C'est que c'est un vrai diss-track où c'est plus... Le 10 de disrespect, là, il est vraiment vrai, en fait.
Et effectivement, tu ressens la haine.
Les autres distraquent, les autres clashent, même si, dans le hip-hop, en vrai, quand il y a des clashs, les gens qui sont dans le rap, moi, selon moi, et même selon Tony Yayo, qui l'a dit récemment dans le premier épisode de son podcast, où il disait que quand il y a des clashs ou quand il y a des oppositions, t'es obligé de faire un choix. Ouais. À chaque fois, les gens font des choix. Et là, en vrai, on sent que c'est un vrai clash, là où les autres clashs, quand on regarde des années plus tard... À part le 50 Ja Rule, où on sent que c'est plus des coups marketing. Donc c'est plus pour vendre des CD qu'autre chose.
Parce que souvent, c'est savoir lequel est le meilleur, tu vois, genre en mode.
Exactement.
Genre techniquement, lequel est le meilleur. Genre Jay-Z Nas, le but c'était de savoir qui est le meilleur rappeur, technique, exactement, en lyrics, etc. Là, il n'y a pas ça.
Que la haine, elle était viscérale.
Là, il y a la destruction. Il y a la destruction, et ça cite des noms, ça veut faire mal. Tu sens que la façon dont ça a été dit, il n'y a pas de retour arrière. Tu vois, Biggie et Tupac, ils étaient potes. Tu peux te dire, à un moment, ils peuvent s'arranger, tu vois.
Non, mais là, à partir de là,
il n'y a plus de sous-entendu. Le truc comme Biggie a pu le faire avec Ushotia, on ne savait pas, c'est comment il est sorti, est-ce que c'était pour ça, pas vrai. Là, il n'y a pas. Tu vois, c'est les vrais noms, c'est genre c'est que direct, des trucs avec les mamans, avec les femmes, les trucs, c'est n'importe quoi.
War time.
Puisque vous en parlez, écoutons un extrait, un court extrait de Hit 'Em Up. Grab your blocks when you see Tupac. Call the cops when you see Tupac. Who shot me, but your pumps didn't finish. Now you're about to feel the wrath of a menace. Nigga, I hit him up. You motherfuckers know what time it is. I don't even know why I'm on this track. Y'all niggas ain't even on my level. Quel morceau.
Incroyable.
Quel morceau. Il te met dans une énergie quand même.
Get out of the way, yo. Get out of the way.
J'ai envie de me battre avec vous.
J'ai pas la force physique, mais j'ai l'envie. Ça part en MMA, c'est bon, allez hop.
On continue à parler de Lies of Me jusque 23h. Alors, si on parle de cet album-là, effectivement, tu l'as dit, Arnaud, tout à l'heure, c'est un album qui est couronné de succès. Il y a des tubes, il y a des morceaux de rap plus pointus. Enfin, c'est vraiment un vrai blockbuster, en fait. Et d'ailleurs, c'est même peut-être un des premiers blockbusters de l'histoire du rap américain. En tout cas, dans la manière dont il est pensé, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment tout. Il y a des morceaux pour les clubs, des morceaux pour se battre, des morceaux pour le sport, des morceaux doux. Il y a vraiment énormément de choses dedans. Est-ce que c'est... Pensez comme ça, est-ce qu'il est construit comme un blockbuster, ce disque?
Oui, c'est un blockbuster. Après, je pense pas que ce soit le premier. Drake chez Death Row, quand tu penses à Doggy Style.
Ouais, c'est vrai.
Doggy Style, c'est vrai.
T'as Illmatic aussi.
Drake, il a déjà fait ce truc.
Même Illmatic, c'est vrai, avec tous les producteurs, t'as raison, il y a quelque chose de. Ouais.
Donc voilà, je pense pas que ce soit le premier, mais par contre, tu sens un truc où Tupac sort d'un succès avec Me Against the World.
Tout à fait.
C'est une star du cinéma. Enfin,
il commence
à devenir une star du cinéma. il a cet album à succès. Et en gros, tu sens, c'est comment on fait mieux. Et je pense que Death Row lui donne toutes les armes pour faire mieux. Tout simplement, le mot d'ordre, c'est tous les artistes qui sont chez Death Row, vos meilleurs morceaux, vous les donnez à Tupac.
Voilà.
Tout simplement. Et Tupac monte dessus. C'est comme ça qu'ils construisent ce blockbuster. Ça veut dire que tout Death Row est là pour lui, en fait.
Ouais,
et des fois, même quand t'as pas envie.
Ouais.
Et là, je pense à Dre.
Ouais, c'est clair.
c'est intéressant, ça.
Dre a deux morceaux sur cet album-là. C'est pas lui qui les a donnés.
C'est Ken Simi et
California Love. On lui a clairement pris.
Ouais.
California Love, c'est un solo de Dr. Dre en vrai. Et Tupac l'entend et il dit je veux monter sur le morceau. Suge Knight lui dit tu peux le prendre sans demander à Dr. Dre. Bon, après Dr. Dre découvre, bon ok, bon, on fait le clip tel jour, bon ok, je viens. En fait, on t'a sauté deux couplets, hein. Il y a Tupac maintenant.
Ouais,
donc voilà. Et Ken Simi, c'était un morceau qui était pour Helter Skelter, qui était un album de Dr. Dre, Ice Cube, qui était prévu. Tupac l'entend, il dit j'aime ça. Shubnet, il dit bah, on enlève les voix. Vas-y.
Voilà. T'as bien George Clinton, bah, vas-y, c'est bien. Allez.
Donc voilà, Dr. Dre à ce moment-là, il est là, il joue un peu le jeu, mais quelques mois après, il quitte Def Row. C'est une des raisons. Il y a plusieurs raisons, hein, mais c'est une des raisons.
Alors, on est déjà sur le départ.
Je suis prêt,
je pense que c'est le moment où il est sur le départ et tout.
On n'a pas parlé parce qu'on. Là, le sujet, c'est Life on Me, mais avant même Me Against the World, il y a deux albums. Il y a Tupac Alive Snow, Strictly for My N-Word, qui, qui sont deux albums, pour le coup, qui ne sont pas couronnés de succès. C'est un autre.
Strictly for My N, ça y est, il est certifié.
Ça marche, je veux dire, on n'est pas.
C'est pas Me Against the World, mais ça a marché. C'est le premier qui a pas marché.
Il y a des très bons morceaux.
Il y a des bons morceaux, mais moi, j'étais pas.
On est aussi dans quelque chose de très.
Moi, Tupac, je rentre vraiment sur le deuxième album.
Sur le deuxième. Est-ce que, quand vous regardez le début de sa carrière, qui est quand même. C'est un autre rap, en fait, quelque part. C'est aussi un autre son, mais c'est aussi une autre époque. De toute façon, entre 91 et 96, le rap évolue énormément. Est-ce que vous auriez pu imaginer que Tupac deviendrait aussi énorme en termes de notoriété, parce que c'était pas forcément évident quand on voit le profil du rappeur initialement.
Même quand on le voit au début avec Digital Underground et tout, semblant de danseur, hype man et tout, tu te dis pas que ça va devenir la méga resta de ce truc, mais ça arrive quand même assez rapidement, mais je pense
sur
parce que les choix
sur le deuxième album, franchement. Ouais. Quand il fait I Get Around,
quel morceau
ça. Tout le monde se le prend aux États-Unis. Ouais. Moi, en France, je vois ça, je dis ok, c'est bon, il a quelque chose.
Puis surtout, tous les gens qui bossaient avec lui, lui mettaient des passes-dés de fou, tu vois. Chuck G, Digital Underground, on se rend pas compte.
C'est-à-dire que les gens sentaient, en fait. Je pense qu'il devait sentir une aura.
Il avait un charisme.
C'était plus qu'un bon rappeur.
Un charisme de fou.
Tu le rencontrais, même avant qu'il soit connu, c'était une star.
Tu
t'y attachais. Tu le détestais.
Il laissait pas indifférent.
Et je pense qu'il y a ça. Et quand il fait Me Against the World, c'est fini.
C'est déjà terminé.
On parlait de Life on Me, on disait qu'il n'y avait pas de déchets sur cet album. Et je suis d'accord avec vous. Et moi, il y a un morceau que j'adore, qui était clippé d'ailleurs, c'est All About You.
Magnifique.
J'adore ce morceau. Donc, je vous propose qu'on l'écoute.
Allons-y.
On s'écoute ça. Et ça aussi, ça met dans une bonne ambiance. All About You de Tupac.
It's all about you.
One time,
I'ma say it's all about you.
For the bitches that think it's all about you.
It's all about you. Drew down in the house with my boy Pizknock. You know
it's
what I'm saying?
It's all about you.
Yeah, I'ma say it's all about you, but you're not lying now.
You probably took it as the last trick. Wanna laugh at how I got my ass caught up with this bad bitch. Thinking I had her, but she had me in the long run. It's just my luck, I'm stuck with fucking with the wrong one. Wise decisions based on lies we live in. Scandalous times, this game's like my religion. You could be rolling with the thug. Instead you with this weak scrub looking for some love in the club. I see you staring like you want it. Well, baby, if you got it, better throw it. Let the liquor help you get a bonus. I'm still tipsy from last night. Bumping these walls as a pose. Addicted to the fast life. I try to holler, but you tell me you take it. Saying you ain't impressed with the money you make. Guess it's true what they telling me. Fresh out of jail, life's hell for a black celebrity. So that's the reason why I call. And maybe you win it. Fantasies of a sweating, can I hit it? Addicted to the things you do. It's still true. What I'm saying, boo, is this is all about you.
Every other city we go, every other video,
it's all about you.
No matter where I go, I see the same hoes. Every other city we go, every other video,
it's all about you.
No matter where I go, I see the same hoes.
I make a promise if you go with me, just let me know I had you hollering my name out before I leave. Nobody loves me, I'm a thug nigga. I only hung out with the criminals and drug dealers. I love niggas, cause you coming from the same place. Witness me holla at a hoochie, see how quick the game takes. How can I tell her I'm a player? And I don't even care, creep though. Weed smokes in the air. Everywhere I go, it's all about the groupie hoes. Waiting for niggas at the end of every show. I just seen you with my friends, video. I never put a beat for my friends, so here we go. Follow the leader and beat the drama that I'm going through. It's all about you.
Yeah, nigga. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoes. Every other city we go, every other video, no matter where I go, I see the same hoes.
Is you sick from the dick, or is it the flu? It ain't about you or your bitch ass crew. Every other city we go, in every video, explain to a nigga why I see the same shitty hoe. You think it's all about you, but boo, I get down like Drew and my nasty new niggas.
You couldn't hold me back, it'd take a fatter track, a lyrical attack, perhaps it was a visual block. When I started to snap, slow your load, I'm swimming straight in control. Flows a fold, my whole toes strong, hold a
set. I told you I'm a scroller next. Go digging, cold digging a go roll.
I slide in easily, try a greasily. Sluts know the cut. I came to fuck, try squeezing me. Running up in you just like who's dinner when I've been you at the most. I fuck a bitch from the west coast.
It's all about every other city we go. Every other video. No matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go. Every other video. No matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go. Every other video. No matter where I go, I see the same hoe. Every other city we go. Every other video.
Same old shit.
No matter where I go, I see the same hoe.
God damn, you know what I'm saying? I'm sitting back watching Montel Jordan video. I see the same bitch who was in the homeboy Nathan video. Then I flip the channel, I'm checking out my homeboy Tupac video. I see the same bitch that was in my video. You know what I'm saying? And then, you know what I'm saying, what make that even more fucked up, I'm watching the Million Man March, and I see the same bitch on the Million Man March that was in the homeboy Warren G video. I mean, damn, everywhere I look, everywhere I go, I see the same hoe. Don't get mad, I'm only being real. Yeah.
All About You de Tupac avec une superbe outro de Snoop Dogg à la fin.
Incroyable.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
But I'm infinite, immortal outlaw. Switching up on you ordinary bitches like I'm Southpaw. You get left in every breath I breathe until the moment I'm deceased. I'll be another moment falling as a G. I grip the crowd and I start again. Eternally I live in sin until the moment that they let me breathe again. The heart's a little hard for the fight.
House of Man, donc, de Tupac. Et je voulais qu'on écoute ce morceau parce que, tu sais, alors Tupac, évidemment, c'est une légende, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Mais parfois, il y a un peu de révisionnisme sur Tupac, sur son talent de rappeur. Tu sais, notamment sur, ouais, parfois, quand on a le fameux choix, est-ce que vous préférez Tupac ou Biggie? Les gens vont dire, oui, Biggie, c'était un meilleur rappeur, plus technique, ce qui peut s'entendre, mais. Parfois il y a des gens qui disent ouais, Tupac c'était pas assez, alors que c'est un rappeur extraordinaire, ouais, vraiment, déjà dans l'émotion qu'il arrive à incarner, à transmettre aux gens, mais même dans la technique, je veux dire, c'est comme ça, on l'entend, c'est un super rappeur. Est-ce qu'on peut un peu parler du niveau de Tupac en tant que rappeur?
Moi je veux juste dire un truc, c'est il vient de le dire, enfin il l'a dit juste avant Arnaud, c'est ce truc de choisir un camp. Et moi, je le vois même dans le football. Quand t'es fan de Cristiano Ronaldo, il y en a beaucoup qui veulent faire passer Messi comme, oui, quelqu'un qui est mauvais,
exactement,
joueur. Alors que c'est un génie.
C'est pas possible
peux,
de dire
voilà,
ça.
Tu peux être fan de l'un et reconnaître le talent de l'autre.
Ouais.
Et je pense que ceux qui disaient ça étaient trop fans de Biggie. Donc, ils ont voulu minimiser la technique de Tupac. Mais moi, il y a un morceau qui s'appelle Med and Work.
On écoutera un extrait après, d'ailleurs.
Ce qu'il fait dedans, c'est incroyable. Bah, rapologiquement parlant, c'est incroyable.
Après, c'est le moment aussi où on a presque deux rap, quoi. C'est, tu vois, le rap new-yorkais très technique, qui est pas sur les mêmes, on va dire, les mêmes niveaux de juger la musique,
oui,
en fait.
Il y a différents niveaux techniques, en fait.
Ouais, puis en fait, c'est aussi Tupac, je trouve qu'il a ramené sur le devant de la scène des scènes locales qui étaient très très sous-estimées déjà à l'époque dans le milieu du rap, où tout le monde parlait de New York, mais lui, c'est en fait, pour moi, l'influence principale qu'on entend, c'est Scarface de Ghetto Boys. Il y a un, ouais, côté très Ghetto Boys.
Ouais.
Et il y a la Bay Area, tu vois, qui est genre une pépinière de rap de fou, d'ailleurs, qui est beaucoup dans l'album. On a Richie Rich, on a E-40, on a Cibo, qui sont des légendes à l'époque, mais qui sont très sous-estimées à l'intérieur du rap à l'époque. Uh-huh. Et donc, bah, par la petite lorgnette, tu vois, ce qu'on voyait, c'était genre, ah, c'est pas du bon rap, c'est pas bien.
Alors, en fait, c'est le baromètre pour beaucoup de gens, c'est New York.
Ouais, c'est ça.
Donc, si ça ressemble pas à New York, ah, c'est pas du bon
c'est
rap.
C'est bizarre, ouais.
Sauf que Crazy Bone, qui vient de Cleveland, est un très grand rappeur.
Bien sûr.
Tu vois ce que je veux dire ?
Il fait autre
chose. Ça n'a rien à voir avec New York, il fait autre chose. Mais tu peux pas lui enlever. Et pour moi, Tupac, il a créé son propre couloir. Et
bien
après, il y a plein de gens qui l'ont imité.
Bien sûr, bah, c'est tout ce qu'on ressent après quand on voit que tout le monde est un peu en train de reprendre le style à la Scarface, ça vient parce que les gens ils ont pompé Tupac. Tu vois, il y a Master P, il y a Cash Money, toute la Nouvelle-Orléans, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas ce catalyseur finalement de Tupac, de la musique du sud des États-Unis et de la Bay Area ensemble. Tu vois. Et moi, c'est ça en fait que je pense que les gens ils disent quand ils disent c'est pas un bon rappeur, c'est qu'ils n'ont pas eu cette histoire du rap du sud et de la Bay qui pendant très longtemps a été sous-estimée et que les gens considéraient que c'était pas du bon rap parce que c'était pas technique. organique, parce qu'il n'y avait pas des prods à la New York et tout. Et tout en fait, c'était un peu finalement du mépris de classe, tu vois.
Bah, part, on revient au Source Wars de 95 quand André 2000 de Outkast dit
tout
le
est
Sud
là.
A quelque chose à dire. Ouais, en
tout
fait.
Est là.
Voilà, on veut aussi notre voix au chapitre. Ouais, pour le coup, personne ne peut dire que André, c'est un bon rappeur. Voilà.
Tout est là.
Exactement. Alors, juste parce que tu as cité ce morceau, Made N Word, écoutons un extrait.
Call me a bad boy, killer, murder, motherfuckers daily. Know the feds trail me, so my alias Machiavelli. Getting lessons from niggas in penitentiaries. Game, when the plot helped me survive. Several centuries, lock me in.
C'est un morceau exceptionnel auquel évidemment Kendrick a fait référence son dernier album en date sur le morceau Reincarnated.
I found myself with a pocket full of money and a whole lot of respect. While the record business love me, I was head of rhythm and blues. The women that fell to their feet, so many to choose. But I manipulated power as I lied to the masses. Died with my money, gluttony was too attractive. Reincarnated.
Arnaud, évidemment Tupac a un héritage important. Est-ce que Kendrick est le plus grand héritier de Tupac?
Ça le fait rire de dire.
Non. Est-ce que c'est le meilleur fils illégitime de Tupac?
Non, il fait son truc. En vrai, il fait son truc. Il est très inspiré par Tupac. Il l'a jamais caché. Surtout même dans des titres d'albums. To Pimp a Butterfly, qui devait s'appeler à la base To Pimp a Caterpillar, acronyme de Tupac. Mais non, moi je pense que... Faudrait pas le mettre dans un arbre généalogique.
Non, mais lui-même se revendique de Tupac pour le coup.
Il est super inspiré.
Il y a le morceau Mortal Man, voilà. Évidemment, avec cette interview.
Super inspiré, mais de là à dire fils illégitime, tout ça. Non, déjà, il a la couronne de la West Coast, soi-disant qu'on lui met sur la tête. Il a
la couronne de problème. Il a beaucoup de couronnes.
Il a déjà trop de problèmes.
Le gars des problèmes. Doucement, laissez-le.
Donc, non, je pense que ce serait de mauvaise chose de le mettre là-dedans, mais on sait que vraiment, grand fanatique de Tupac.
Bien sûr.
Et de ce côté-là. Quand on parlait tout à l'heure de choisir un camp, lui, clairement, son camp, il l'a choisi.
Clairement. Ouais. Et ça a même été aussi un sujet, même dans un autre clash, pour le coup, plus récent entre Drake et Kendrick. On se souvient du morceau de Drake avec de l'IA où il prenait les voix de Tupac. Et ça a été un argument aussi de Kendrick dans notre Like Us. Il dit, je pense que tu peux manquer de respect à Tupac. Donc,
exactement. J'étais vraiment pas d'accord avec Aubrey Graham. Ouais.
Mais Kendrick, je pense qu'il a capté l'essence même de ce que c'est Tupac, tu vois. Dans ce qu'il reprend, c'est plus que juste techniquement ou musicalement. Ouais. C'est pas juste des petites, je sais pas, des petits boards sur Pinterest, quoi. C'est vraiment le charisme et même ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Le côté révolutionnaire, en fait.
Ouais,
il y a un côté genre qui est en colère contre la société. Globalement,
totalement.
Tu vois, et qui est toujours progressiste. C'est pour ça que des fois ça parle dans tous les sens, mais il y a un côté genre vraiment 100% en conflit avec tout ce qui est.
Avec l'Amérique, avec la société américaine. C'est pour ça que même tous les gars de Outlaws, les noms qu'ils leur donnent, c'est que des noms d'ennemis de l'Amérique. Les Hussein Fatal, c'est Saddam Hussein, Kadhafi,
y a c'est bizarre maintenant.
Idi Amin, c'est Idi Amin Dada.
Bien sûr. Ouais.
Ça faisait peur, c'était provocateur, tu vois.
Il est que dans la provocation, c'est que
exactement.
Ça.
Bon, on va continuer à parler de Lies Me, notamment de vos morceaux préférés.
And we don't even kick it down a big money scheme. And you ain't even with it. Knew in my heart you was the same motherfucker bad. Go toe-to-toe when it's time for growth, you gotta bump us back. And I can't even trip. Cause I'm just laughing at you. You're trying hard to maintain. Then go ahead, cause I ain't mad at you. Mad at you. I
ain't mad at you.
Ain't Mad At Ya, donc morceau présent sur Lies Me, prod de Daz Dillinger, si je ne dis pas de bêtises, donc membre du Dog Pound, avec Danny Boy au refrain.
Ouais,
ça, hein. Et c'est le moment où je voulais vous demander, on peut commencer avec toi Arnaud, parce que je crois que tu écoutais l'album sur le chemin, tu t'es replongé dedans. Est-ce que toi, t'as des. Évidemment, c'est un. Même, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui ne l'ont pas écouté l'album, c'est long, c'est un album qui est très digeste, en tout cas qui est très dense. Est-ce que toi, t'as un des morceaux préférés sur ce disque?
Ambition as a Rider, déjà. L'entrée de l'album, terrible. Le mec sort de prison, il annonce tout de suite la couleur. Donc il y a ça. Et j'ai oublié le nom du tout dernier morceau du deuxième CD.
C'est pas What's Your Phone Number? Non, je sais plus, c'est pas le CD. Bon, en tout cas, écoutons un extrait. Ça. Écoutons un extrait de Ambition as a Rider. Ouais. Ça c'est quand même assez mythique. Hein. C'est vraiment devenu un morceau qui est dans.
Incroyable.
J'ai une anecdote incroyable.
Ah bah sur ce morceau. T'étais là quand ils l'ont fait, c'est ça?
J'aurais bien voulu. Non, non, j'ai eu la chance dans ma petite vie d'interviewer le légendaire boxeur Mike Tyson.
T'as fait ça, toi?
Voilà, oh dans mon podcast featuring.
Ah, mais c'est vrai. Ah, mais oui, dans featuring.
Exactement.
À quelle vie?
Il faut savoir que Mike Tyson rentrait sur le ring avec ce morceau-là.
Ouais. Okay.
Et il était très proche de Tupac, donc on a parlé un peu de Tupac.
Mais d'ailleurs, le jour de son décès, il sortait d'un combat de Mike Tyson à Las Vegas.
Ouais. Mike Tyson contre Bruce Seldon.
Voilà. Et le truc, c'est qu'on parle un peu de Tupac, et moi, je lui dis, mais comment c'est arrivé ce My Ambition as a Rider pour ton entrée sur le ring, comment c'est arrivé? Il m'a dit, c'est simple, vous allez reconnaître Tupac dans toute sa splendeur. Moi, je rentrais sur Redman, Time for Some Action. Mmh.
Ah, okay.
Lui et moi, on s'est rapprochés. Il m'a dit, bon, fait, ton truc de Redman, là, c'est fini maintenant. Tu prends ça. Mike Tyson dit, OK.
C'est-à-dire que même Mike Tyson refusait de dire non à Pac. C'est-à-dire le charisme.
Et il dit, c'était ça, Tupac. Il doutait de rien. Il arrive, je suis Mike Tyson. J'ai frappé tout le monde.
Ouais.
Et là, il arrive, eh, bon, c'est fini maintenant. Tu
et puis, j'y connais rien en boxe, mais en 96, on parle de Mike Tyson Prime, non?
Non, il sort de prison. Et tout le monde a peur de lui.
Il revient
champion du monde.
Personne veut combattre avec lui.
Ok, très bien. Aurélien, toi, t'as un des morceaux préférés sur ce disque?
En vrai, c'est quand même Ambition as a Rider, notamment parce que la prod, en vrai, c'était vraiment ce truc qui était étrange. T'avais pas l'habitude d'avoir ça dans la West Coast. À cette époque-là, c'est très G-Funk. C'est pas de la G-Funk. La caisse claire, elle est assassine. Il y a des sortes de fantômes derrière, on comprend pas trop. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, j'ai eu une porte vraiment à des nouveaux styles musicaux, comme je disais, la Bay, Houston, etc. Je trouve qu'il y a tout ça dans ce morceau.
Je trouve que ça, c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur le côté catalyseur que Tupac pouvait avoir sur d'autres scènes de rap. Je trouve qu'on ne dit pas assez quand on parle de Tupac.
Mais il a influencé énormément de gens.
C'est
après,
important de se rendre compte qu'il était à la croisée de plein de chemins et qu'il pouvait incarner ça en fait. Il y a un truc de passeur en fait chez
complètement
Tupac.
Et ce morceau-là, je trouve qu'il y a tout dedans. Et sinon, moi, il y a les prods de DJ Quick. Parce qu'en fait, Quick a pas mal bossé à cette époque avec Death Row. Il y a 2-3 prods, je crois.
Il est vraiment ingénieur du son sur cet album. Il a une prod
c'est Earth of Man qu'on écoutait tout à l'heure. Quand il était présent,
parce qu'il avait pas le droit d'être là. Du fait qu'il était chez Profile, c'était un peu compliqué.
Il était managé par Suge Knight en fait
c'est
à ce moment-là.
Ils essayaient de le sortir de là-bas et tout. Donc
toi, Driver, t'as un morceau phare?
Moi, j'ai un morceau rien à voir avec vous. C'est un morceau R&B en vrai.
Allez.
Le morceau, c'est Run the Streets.
Ouais.
Qui est une reprise d'un morceau de Guy, un groupe de New Jack. Et c'est une balade à la base qui s'appelle Piece of My Love. C'est vraiment une chanson d'amour à la base. Et lui, il a réussi à flipper le truc en une thug story avec une meuf où t'as Michel Lay qui chante au refrain, qui dit qu'en gros, tu peux faire toutes tes bêtises dans la rue, je serai toujours là à t'attendre. C'est une thug girl, quoi.
Ouais.
Voilà, et tout. Et lui, il rappe le truc. Il y a Storm, une rappeuse aussi.
Tout à fait.
Dans le l'entourage de Outlaws qui rappe dessus. C'est mon morceau préféré de l'album.
Très bon. On va écouter un morceau, un classique de cet album, même si j'en veux un peu à ce morceau, car à cause de lui, on a eu beaucoup de mauvais tatouages. C'est Only God Can Judge Me. Il y a trop de gens qui se sont tatoués ça.
C'est
vrai, à cause de ce morceau.
T'as pas dit, toi, c'était quoi ton morceau préféré?
C'est Only God Can Judge Me. Voilà, j'ai beaucoup d'inspiration. C'est ça, Only God Can Judge Me de Tupac.
Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
Nobody else.
All you other motherfuckers, get out of my business.
Really?
Perhaps I was blind to the facts. Stabbed in the back, I couldn't trust my own homies. Just a bunch of dirty facts. Will I succeed? Paranoid from the weed. And hocus pocus try to focus, but I can't see. And in my mind, I'm a blind man doing time. Look to my future, cause my past is all behind me. Is it a crime to fight for what is mine? Everybody's done. Tell me what's the use in trying. I've been trapped since birth. Cautious, cause I'm cursed. And fantasies of my family in the hurts. And they say it's the white man I should fear. But it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside, make them wish I died. Oh my lord, tell me what I'm living for. Everybody's dropping, got me knocking on heaven's door. In all my memories, I'm seeing brothers bleed. And everybody grieves, but still nobody sees. Recollect your thoughts, don't get caught up in the mix. Cause the media's full of dirty tricks. Only God can judge me.
Yeah, baby.
I hear the doctor standing over me, screaming I can make it. Got a body full of bullet holes, laying here naked still. I can't breathe, something's evil in my IV. Cause every time I breathe, I think they're killing me.
I'm having nightmares, homicidal fantasies. I wake up strangling, dangling my bed sheets. I call a nurse cause it hurts to reminisce. How did it come to this? I wish they didn't miss. Somebody help me, tell me where to go from here. Cause even thugs cry, but do the Lord care? Trying to remember but it hurts. I'm walking through the cemetery talking to the dirt. I'd rather die like a man than live like a coward. There's a ghetto up in heaven and it's ours. Black power is what we scream as we dream in the paranoid state. And our fate is a lifetime of hate. Dear mama, can you save me? And fuck peace cause the streets got our babies. We gotta eat, no more hesitation. Each and every black male's trapped. And they wonder why we suicidal running round strapped. Mr. Police, please try to see that it's a million motherfuckers stressing just like me. Only God can judge me.
That which does not kill me can only make me stronger.
For real.
I don't see why everybody feels as though they gotta tell me how to live my life.
You know?
Let me live, baby. Let me live.
Pac, I feel ya. Keep serving it on the realer. For instance, say a player hating Marcus out to kill ya. Would you be wrong for bucking a nigga to the pavement? He gon' get me first if I don't get him. Fools start praying. Ain't no such thing as self-defense in the court of law. So judges, when we get to where we're going, we're in the cross. That's real. Got him, licked him, crept the fuck up on him. Sold a half a million tapes. Now everybody want him. After talking behind my back like a bitch would. Telling them niggas you could fade a punk, I wish you would. Them same motherfuckers in your face that'll rush up in your place to get your safe. Knowing you on that paper chase. Grass, glass, big screen and leather couch. My new shit is so fatty, I already sold a Kia ounce. Bitch, remember Tupac and Forte? Them same two brothers dodging bullets representing the Bay. Pac, when you was locked down, that's when I'll be around. Start climbing up the trunk, so sick, but they tried to clown. That's why they ride the bandwagon, still be dragging, selling lies. Don't think I don't see you haters, I know y'all in the skies.
Guess you figure you know me cause I'm a thug that love to hit the late night club, drink them buzz. Been living lavish like a player all day. Now I'm about to floss some ball player shit with Forte. Only God can judge me. Only God can judge me. Only God can judge me.
That's real.
Only God can judge me. Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God can judge me.
Only God Can Judge Me, donc de Tupac, extrait de l'album All Eyes On Me.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Your body is banging, baby. I love it when you're flown it. Time to give it to daddy, nigga. Now tell me how you want it.
How do you want it, donc extrait de cet album. Arnaud, tu es donc co-animateur sur Parole Véritable podcast. Mmh. Et bon, déjà j'aime beaucoup cette émission.
Merci.
Et vous, des fois vous aimez bien parler des what if, notamment dans le football. Le what if, c'est qu'est-ce qui se serait passé si. Voilà.
Ouais.
Et j'ai envie de te lancer un what if. Si Tupac avait été encore là, est-ce que ça aurait pas été un très grand acteur des années 2000? Parce que moi j'ai l'impression quand même que on en a pas parlé. C'est un peu annexe à l'album, mais il avait vraiment entamé une vraie carrière d'acteur. D'ailleurs, c'était un vrai comédien. Il était bon, moi je sais notamment d'un film Gridlock avec Tim Ross. Le film est bien sans plus, mais leur alchimie, lui, est génial dedans. Est-ce que ça aurait pu être un grand comédien selon toi?
Ouais. Bon, toi tu parles de Gridlock, mais moi c'est plus Juice le rôle de Bishop.
Incroyable.
De Bishop, légendaire.
C'est son rôle incroyable. Le plus marquant, je pense.
Oui. Ça, Above the Rim aussi.
Ouais.
Donc ouais.
Poetic Justice avec Jackson.
On parle de quelqu'un qui est mort à 25 ans, tout ça c'est des classiques.
Ouais.
Donc obligatoirement.
Okay.
Il aurait fait carrière.
En vrai, Will Smith, sa carrière décolle vraiment. Ouais, il a fait Fresh Prince et tout avant, mais ça décolle vraiment après que Tupac décède. Si ça se trouve, tu vois, déjà...
Tu penses que Tupac aurait pu être casté pour les Bad Boys ou
Il était plus ou moins pressenti pour La Menace Fantôme de Star Wars. C'était lui
qui
jouait Bindu.
Ouais, tout à fait, le personnage qui a été pris par Samuel Jackson. C'est vrai que ça, c'est... Ouais. Je ne sais jamais si c'était vrai, mais il y a cette information.
Il avait fait un cast et tout, c'est juste qu'au final, il n'a pas été retenu parce qu'il est mort, en fait. Mais sinon, le tournage aurait pu être... Imagine, il est dans Star Wars. Imagine, il fait une grosse franchise style Independence Day comme Will Smith il a fait. On voit où Will Smith il est maintenant. Je pense que Tupac aurait pu avoir ce même genre de parcours avec des énormes blockbusters mélangés à des grosses performances comme Will Smith a fait, quoi.
Will Smith, c'est plus sa stratégie qui l'a mené là où il est. Parce que lui, il a vite compris
que ces films devaient sortir des frontières des États-Unis.
Bien sûr.
Donc
bien
quand
sûr.
Ils font Bad Boy, ils font tout pour que le film se vende aussi en Europe, se vende aussi en Asie. Et il l'a dit carrément dans une interview, c'est sur conseil de Arnold Schwarzenegger, qui lui a dit que si tu rates ou si tu fais un flop aux États-Unis, tu peux réussir à faire des chiffres plus importants à l'étranger. Mmh. Et c'est plus par rapport à ça qu'il a construit sa carrière.
Surtout, il a eu des énormes franchises, genre Hippie Hollands Day,
Men in Black. Black. Voilà, bon,
mais je dis juste, si Tupac avait eu ça, parce que c'est pile après, bah, en fait, ça se trouve, ça serait...
Tu es d'accord avec ça, Driver ?
Non.
Non.
en fait, moi, je pense que ça aurait pu être un très grand acteur, mais par contre, il n'aurait pas pu se libérer de sa folle vie où il peut partir en prison à tout moment. Mmh. Et je pense qu'il aurait raté des opportunités dans le cinéma. Mmh. C'est ça qui serait passé. Parce que Tupac, c'est un sanguin. Il t'aime fort. Il te déteste fort. Mmh. Et il réagit tout de suite. Et quand tu réagis tout de suite sans réfléchir, ça peut t'amener en garde à vue, voire en prison. Mmh. Mais si tu vas en prison, tu rates les opportunités. Donc moi, je pense que...
longtemps à faire.
Exactement. Donc moi, je pense
la différence avec un Will Smith.
Exactement, qui était là,
avait une vraie stratégie.
Voilà, il était dédié à ça. Ouais, et voilà, pas d'histoire. Monsieur Mr. Nice Guy.
Ouais,
voilà.
Mr. Clean Infant.
Et pas que c'était pas ça. Pas qu'il est capable de vouloir changer ton scénario.
Menace Society.
Il a frappé un des deux frères. Tu vois,
je vais te dire, j'aurais aimé qu'il change le scénario de la menace fantôme de Star Wars. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé. Il aurait pu faire beaucoup de bien ce film.
Mais bon, voilà, moi je pense que les frasques l'auront empêché d'être.
Ouais,
c'est sûr. Même dans la musique, au final, peut-être que. Est-ce qu'il aurait pu vivre aussi longtemps?
Ouais, vu la
vie qu'il avait.
Voilà. Mais en tout cas, ces frasques servaient sa musique. Dans le cinéma, c'est pas comme ça.
Ça n'a jamais empêché en fait, d'être une superstar, que ce soit dans le cinéma ou la musique.
Voilà.
Ou peut-être autre chose, on ne sait pas.
Mais rater des films, c'est dur, quoi.
Ouais. Bon, messieurs, c'est l'heure de la question qui tue. Et vous me voyez venir. Est-ce que All Eyes on Me est le plus grand double album de l'histoire du rap ?
Non.
Non, alors pourquoi ? On a un peu de temps. Pas beaucoup, mais développe, je t'en prie.
Parce que...
C'est Life After Death pour toi, de Biggie ?
Parce que Life After Death existe.
Ah.
Et ça, c'est plus qu'un album, c'est tu l'écoutes, tu fermes les yeux, t'es dans un film ou dans un livre.
Okay.
C'est, ça mérite le prix Pulitzer avant Kendrick, ça. Ouais, et même, l'histoire est romanesque.
Bien sûr.
L'album le s'appelle titre. Life After Death,
mais
il
comme
meurt 7 jours avant.
Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour le coup, ces deux doubles albums ont des histoires complètement folles, jusqu'au titre et toutes les interprétations qu'il y a eu sur Machiavelli, Seven Day Theory, donc le dernier album, enfin l'album posthume de Tupac, le premier. Ouais. C'est aussi un album qui génère énormément de fantasmes.
Avec des codes du mafioso rap.
Tout à fait.
Que Tupac a emprunté dans Two of America's Most Wanted. Qui lui faisait plus du gangsta rap.
Ouais, tout à fait.
Mais voilà.
Driver.
Oui. All Eyes on Me est le meilleur double album de l'histoire du rap américain parce que blockbuster, parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout dedans.
Ouais.
Parce qu'on l'a, depuis tout à l'heure, on parle de certains morceaux, mais il y a Life Goes On.
Ouais. Et, c'est vrai.
Et quand je réécoute cet album, je me dis, il serait sorti avec les stratégies marketing d'aujourd'hui, le nombre de clips qu'on aurait eu de cet album.
Bien sûr,
c'était important. Il y avait énormément de morceaux à clipper et tout ça. Il y a tout dedans. Vraiment, moi, pour moi, cet album-là, c'est le meilleur. Et j'aime beaucoup Life After Death, que je mets juste derrière, mais genre à 0,5.
Oui, ça se joue
derrière.
Rien.
Mais non, moi, Tupac d'abord, Nemo, incroyable.
On a un nom, tu dois trancher. Toi, il va me dire UGK dans Rankin.
Non, je vais pas être aussi fou que ça, mais je pense qu'il y a quand même Outkast qui a un coup à jouer avec
Speakerbox de Love Below.
Il est pas d'accord parce que c'est plus
le CD d'André, c'est même pas du rap. Tu peux pas le mettre dans cette histoire.
Ok, d'accord,
tu peux pas. On t'a dit le rap pour faire le choix.
C'est compliqué de trancher parce que moi en vrai j'ai plus été touché par Biggie parce que ça me parle plus, enfin genre tout ce qui est même comment c'est produit, pour moi c'est le premier vrai album de Biggie parce que le Ready to Die ils l'ont recomposé à partir des maquettes qu'il avait fait, il y a plein de choix que c'était Didi qu'il avait fait, là pour moi c'est Life After Death, c'est Biggie, tu vois.
Ready to Die c'est terrible.
Ready
to Die c'est un film aussi,
il n'a pas dit que c'est pas bien,
je dis que c'est le premier album vraiment où Biggie tu sens qu'il est habité et que tous les morceaux sont encore plus loin que Ready to Die, tu vois, où je sens qu'il a vraiment envie de faire cet album là
donc tu dirais Life After Death,
je pense.
Ok. Très bien. Bon, messieurs, c'est un débat sans fin. C'est les débats qu'on adore. Il n'y a pas de bonne réponse,
quoi,
évidemment.
Moi, je dis Life After Death aussi.
Ah,
mais parce que moi, Biggie, en fait, j'ai un amour. Voilà, mais c'est, ça
je suis entouré de gros New Yorkais.
Non, mais
je suis venu avec ma casquette LR Rams, mon maillot des LR Rams, Los Angeles. Je suis la résistance. Voilà.
Il va chanter It Up là,
je vais dire un truc, par contre, c'est que en prenant de l'âge, ouais, je me rends compte à quel point Tupac c'est extraordinaire. J'ai toujours dit que Tupac c'était génial. Je veux dire, j'ai pas découvert ça là.
Il est une des inspirations de Biggie, les gars.
Non, mais bien sûr. Et plus ça va et plus je le comprends. En fait, parce qu'il y avait parfois un truc, tu sais, moi, je pouvais lire le rap de manière très technique parfois. C'est genre les kickers et les lyricistes. Uh-huh. En fait, Tupac, c'est autre chose. Ouais. Et même s'il a ça aussi. Et je pense que je me rends beaucoup plus compte maintenant qu'il y a 20 ans. Voilà. Ouais. Bon, c'était les 30 ans de Lies on Me. Réécoutez ce 10, réécoutez ce
classique. Anniversaire,
j'espère vous... Exactement, j'espère qu'on vous donne envie de l'écouter. Merci à Aurélien Chapuis. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir, de te revoir dans l'émission. Merci Arnaud pour ta.
Dédicace à Johnny J. Fallait qu'on en parle.
Exactement,
aussi,
très grand producteur, c'est vrai. Très grand producteur. Ouais. Et merci à Driver qui était là il y a pas longtemps pour être Bad Bunny qui est revenu là. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir. Merci et réécoutez la musique de Tupac. Évidemment, merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour, Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. La technique ce soir, c'était Sybille Clamence et Guillaume Roux. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, pas d'émission car Mathieu Conquet et Aline Afanoukoué présentent les victoires de la musique. On se retrouve lundi. Et si tout va bien, lundi, on sera avec qui ? On sera avec Théodora. Oui ! Bon week-end.